Extra classe.
Transmettre les valeurs de la République, c'est le tout premier item du référentiel de compétences communes aux professeurs et personnels d'éducation. Via cette phrase aussi précise que laconique, faire partager les valeurs de la République.
Ces valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, mais aussi la laïcité, la démocratie, la justice sociale, sont l'objet depuis cette année notamment d'une épreuve orale au concours de recrutement des enseignants. Et comme toutes les compétences, les connaissances ou les gestes professionnels, rien n'est inné et ça s'apprend.
Le ministère de l'Éducation nationale déploie d'ailleurs actuellement un ambitieux plan de formation qui s'appuie sur un réseau de 1000 formateurs chargés de la formation de tous les personnels des écoles, collèges et lycées.
Quels sont les besoins des acteurs de terrain pour aborder sereinement la question des valeurs et des principes de la République? Quels conseils et quels outils peut-on leur proposer? C'est ce que nous allons demander à notre invitée Isabelle de Meckenem.
Isabelle de Meckenem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure agrégée de philosophie et formatrice à l'INSPE de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et vous êtes membre du Conseil des sages de la laïcité.
Pour commencer, Madame de Meckenem, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, expliquer aux enseignants qui nous écoutent en quoi consiste ce fameux Conseil des sages de la laïcité dont vous faites partie ?
Oui, très volontiers. Il s'agit d'une instance nouvelle, donc il est normal de ne pas bien la connaître et l'appréhender. Alors, le Conseil des sages est présidé par Dominique Schnapper, qui est une sociologue spécialiste de la citoyenneté et de l'intégration. Le Conseil des sages est constitué d'une vingtaine de personnes, alors qui sont considérées comme des experts à des différents titres, soit en tant qu'universitaire, en tant qu'inspecteur général. Nous avons aussi des journalistes. Enfin, voilà, c'est une instance plurielle. C'est intéressant de le souligner. Et donc, nous avons un rôle de, comme notre titre l'indique, de conseil. Mais nous conseillons qui exactement? Eh bien, en tout premier lieu, nous conseillons le ministère en matière de politique, de formation et de politique scolaire relative à la laïcité. Nous sommes également, ai-je envie de dire, et là je fais un peu concurrence à Canopée, nous sommes un centre de ressources. Nous élaborons des notes, des avis, des communiqués. Tout cela se trouve sur le site du Conseil des sages de la laïcité. Pour vous donner un exemple, nous avons produit une note dans l'optique, dans l'espoir de relancer l'enseignement laïque des faits religieux, dont nous estimions qu'il était quelque peu tombé en déshérence ou en désuétude. Donc voilà, nous avons essayé de synthétiser toutes les bonnes raisons pour relancer cet enseignement qui nous semble indissociable de la transmission du principe de laïcité à l'école. Et enfin, troisième volet de notre activité qui est très diversifiée, nous sommes une instance de formation. Et voilà, aujourd'hui même, j'enregistre l'émission à Poitiers. Je vais former les cadres de l'éducation nationale à l'ancienne ESEN, qui a un nouveau titre aujourd'hui, un nouveau nom.
Alors Isabelle de Meckenem, dans cet épisode Parlons Pratique, nous allons avoir un format un peu particulier. Nous allons entendre des témoignages, des questions qui vont vous être directement adressées. Ces témoignages émanent de praticiens, praticiennes en l'occurrence, qui proposent des actions au quotidien, mais qui s'interrogent aussi sur les problématiques, sur des difficultés liées à la transmission des valeurs de la République.
Alors justement, je vous propose qu'on entre directement dans le vif du sujet avec une première intervention. Il s'agit de Nadia Bécrar, et Nadia est conseillère principale d'éducation au lycée professionnel Blaise Pascal à Marseille.
Alors, sur le terrain, il y a plusieurs niveaux d'intervention pour nous, les CPE. La gestion de crise, de conflit, donc sur des petits groupes d'élèves, de 2 à plus. L'intervention en classe, en ce qu'on appelle l'heure de vie de classe, pour gérer et offrir un temps d'écoute et de dialogue pour les élèves pour gérer des situations ponctuelles de crise, de conflit. Et puis, en tant que référente, notamment référente égalité filles-garçons sur mon établissement, où plusieurs interventions ont pu être organisées en faveur des élèves. La constatation que je fais aujourd'hui, c'est que, bon, d'une part, les valeurs que l'on nomme très bien, égalité, fraternité, liberté, laïcité, elles ont un lien et elles sont interdépendantes. Il est impossible pour nous d'intervenir sur une valeur et de l'isoler des autres, parce que pour leur donner du sens et pour que les élèves puissent comprendre et s'en imprégner. En tout cas, c'est l'objectif qu'on se fixe. Il est important de pouvoir créer un lien entre toutes ces valeurs. Si je donne l'exemple d'un élève qui est exclu du groupe parce qu'il n'a pas les mêmes tenues vestimentaires, le même humour, les mêmes goûts musicaux, les mêmes centres d'intérêt que ses camarades, on intervient. Voilà, parce que l'élève est en mal-être, on intervient et sur quoi on va chercher les élèves, hein, sur l'empathie, et là on sollicite la valeur de fraternité, on va solliciter sur la solidarité et qu'on n'est pas obligé d'être ami avec ce camarade, mais que peut-être lui laisser la possibilité de s'intégrer au groupe, de lui laisser une place, lui permettrait de s'épanouir. Alors, sur ces notions qui sont des valeurs d'empathie, de solidarité, qu'on va rattacher à la fraternité, mais à la laïcité, dans le sens de vivre ensemble autour de valeurs communes, c'est compliqué parce que sur le moment, à très court terme, les élèves sont très sensibles, sont volontaires pour être tuteurs. Sur le plus long terme, ça s'essouffle. On a bien une difficulté, c'est comment rendre ces valeurs, comment permettre aux élèves d'intérioriser ces valeurs, de les rendre vivantes, parce qu'ils écoutent, ils entendent, ils comprennent, mais ils n'intériorisent pas. Ça, c'est la première question. La deuxième question, et qui est liée au fait d'intérioriser, à mon sens, c'est que la pression des réseaux sociaux, du plaire au groupe et de faire sa place au groupe, va prendre le dessus sur ces valeurs qui sont essentielles. Voilà.
Isabelle de Mecknem, alors il y a beaucoup de choses dans ce témoignage, je pense pas mal de fils que vous allez pouvoir tirer. Peut-être la première question qu'on pourrait vous poser, c'est, on parle de valeurs, peut-être commencer par les définir. Qu'est-ce que c'est une valeur? Qu'est-ce que sont ces valeurs? Est-ce qu'il faut les distinguer des principes? Est-ce que ça a une importance de faire cette distinction?
Absolument. Je crois qu'il est vraiment primordial de retracer un cadre global dans lequel s'insère notamment l'action des conseillers principaux d'éducation qui forme un prisme très spécifique, hein, parce que, comme vous le savez, alors j'ai souvent l'occasion, hélas, de souligner ce que des savants, des experts de l'école appellent la division du travail éducatif dans notre système. Vous savez, il y a d'un côté la vie scolaire et de l'autre le monde de l'enseignement. Et il y a un troisième monde également qui est celui de l'administration, vous voyez, avec un grand A, avec une majuscule. Et ces trois mondes, en fait, doivent s'articuler en l'occurrence pour agir dans le même sens, c'est-à-dire cette grande finalité qui est celle de la transmission des valeurs de la République en l'occurrence. Alors, le cadre institutionnel, je le rappelle, je vais poser deux jalons. Premier jalon, la loi d'orientation de 2005. Donc, cette loi d'orientation de 2005, c'est la première à dire, outre la transmission des connaissances, le rôle de l'école consiste à faire partager les valeurs de la République aux élèves. Et c'est cette expression que vous avez citée tout à l'heure, puisqu'on la retrouve, cette expression, effectivement, dans le référentiel de 2013. Faire partager. Alors, l'expression est intéressante, néanmoins, elle est très vaste, très globale. Elle ne dit rien des méthodes pédagogiques, donc elle a quelque chose de frustrant. Néanmoins, elle pose un jalon, encore une fois, essentiel, qui consiste à dire... Il y a les connaissances, effectivement, la transmission des connaissances, le rôle traditionnel de l'école, mais s'y greffe sur ce rôle traditionnel la transmission des valeurs, pas de n'importe quelle valeur, et c'est là que la légitimité de l'école peut se poser et s'exprimer, les valeurs de la République, nous y reviendrons. Alors, cet énoncé de la loi de 2005 a été repris dans une autre loi, dans la loi qui a succédé à cette loi de 2005, la loi d'orientation de 2013, qui portait un titre intéressant, « Loi de refondation de l'école », si vous vous rappelez. Et dans cette loi d'orientation donc nouvelle, qui se surajoute à celle de 2005, il est rappelé qu'effectivement, cette mission de transmission des valeurs donc existe, est reconduite en quelque sorte. Et il est précisé que ces valeurs consistent... Alors, il est intéressant d'en donner non pas la liste, mais de reprendre ce texte. On nous parle de l'égale dignité de tous les êtres humains. Égale dignité de tous les êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Alors, ce que je voudrais tout de suite souligner, parce que là, on a un énoncé de valeurs, et ce sont, comme vous le remarquez, de grandes valeurs. Et en philosophie, les grandes valeurs, on les appelle des valeurs universelles. La dignité de tous les êtres humains, quels qu'ils soient, ou qu'ils vivent, de quelques conditions soient-ils. Donc, c'est une valeur, une notion universalisable, hein, qui dépasse de loin un certain contexte, une certaine société donnée, un modèle politique particulier. Donc, voilà, les valeurs de la République, là, souscrivent à des valeurs qui sont universelles. Il est intéressant de le souligner. C'est pour dire que les enseignants, et j'emploie le mot enseignant en un sens large, en incluant les conseillers principaux d'éducation en l'occurrence, ont donc tous une mission de transmission des valeurs et de ces valeurs telles que je les ai rappelées.
Merci de reposer, j'ai envie de dire, les bases essentielles et légales, quelque part, de la transmission de ces fameuses valeurs. Dans l'intervention de Nadia Bekrar, qu'on entendait tout à l'heure, elle se posait la question de les intégrer, de les faire infuser au quotidien pour que les élèves les intègrent vraiment et que, justement, et ça, ce sera l'intervention d'une prochaine enseignante, du fait que ça soit quelque chose de concret au quotidien pour eux.
Absolument. Mais vous voyez, justement, si on revient à ce constat de la division du travail éducatif, je trouve que la question de la transmission des valeurs, précisément, invite tous ceux qui coopèrent, qui collaborent au sein d'une école, au sein d'un collège, au sein d'un lycée, à travailler ensemble. Donc, voilà, cette thématique est précisément ce qui va aussi créer du lien entre les différents acteurs, entre les différents protagonistes du milieu scolaire. Et ça, c'est intéressant parce que la vie scolaire est une chose, c'est effectivement le lieu dans lequel, ou l'espace, ou le temps, ou les modalités d'action à travers lesquelles les élèves peuvent faire une expérience concrète, effectivement, peuvent vivre, comme on le dit souvent, hein, faire vivre les valeurs de la République, ne pas se contenter de les enseigner, de les transmettre d'une manière formelle, mais l'idéal, c'est de les faire vivre. Donc, forcément, ce sera à travers ce qu'on appelle la vie scolaire. Sachant que la vie à l'école, il y a différentes sortes ou qualités de vie à l'école. Il y a une vie informelle des élèves entre eux quand ils se retrouvent grâce à l'école et à l'école. Et on sait qu'il y a des échanges informels, il y a des apprentissages informels, hein, entre les élèves. Sous-entendu que ce ne sont pas les adultes, voilà, qui conduisent ces apprentissages, qui les contrôlent, qui les surveillent. Non, il y a une espèce de vie informelle, de vie à l'école. Il faut la distinguer de la vie scolaire. Et la vie scolaire est une forme de pédagogie, c'est ce que je veux dire, hein, une pédagogie diffuse en quelque sorte, qui est placée sous l'autorité des conseillers principaux d'éducation. Pour moi, ce sont des acteurs à part entière, aux côtés des enseignants, en lien avec les enseignants, dans cette mission de transmettre les valeurs de la République.
Alors justement, vous parlez d'enseignants. On va à présent écouter le témoignage d'une enseignante. C'est Marion Picard, qui est professeure d'histoire-géographie dans un lycée en région parisienne.
Les obstacles que j'ai rencontrés en ce qui concerne la transmission des valeurs, c'est vraiment le conflit de loyauté des élèves entre le discours familial ou le discours dans le cercle amical et le discours qui est tenu à l'école. Et un exemple qui me vient en tête, c'est en début de carrière, j'avais vraiment cette crainte d'un décalage entre mes élèves et moi sur les questions LGBT. Et j'avais peur en fait de les froisser. Je me disais que cette nouvelle génération était bien informée et que moi, j'allais arriver devant eux peut-être un peu décalée et que j'allais peut-être apparaître comme intolérante. Et puis, lorsque ces questions sont venues en cours à plusieurs reprises, les réponses, les questions des élèves sur ce sujet étaient en accord avec ce que j'avais déjà en tête. Et donc, j'étais plutôt rassurée. Et j'étais rassurée jusqu'au jour où une association est venue pour évoquer ces questions-là. Et j'ai assisté à la rencontre en tant que professeure principale. Et là, j'ai vu plusieurs de mes élèves tenir des propos très homophobes. Et c'est un moment vraiment difficile, mais en même temps crucial pour saisir leur position inconfortable, en fait, entre le cercle privé et l'école. C'est le moment vraiment où j'ai compris qu'ils me servaient docilement le discours de tolérance qu'ils pensaient que j'attendais, mais qu'ils n'y croyaient pas réellement. Donc, eux sont coincés entre cercle familial et entre celui de l'école. Et moi, je suis coincée entre deux exigences, en fait. Comment est-ce que je peux faire en sorte que mes élèves adhèrent à ces valeurs, qu'ils soient plus tolérants, qu'ils y croient, qu'ils ne se contentent pas de me le dire en cours, mais en même temps sans les braquer, sans m'opposer frontalement aux discours qu'ils entendent dans leur entourage familial ou amical depuis qu'ils sont tout petits. Donc vraiment, comment résoudre ce conflit de loyauté ?
Dans la première partie de sa question, on va peut-être commencer par là, il y a ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, ce problème de transmission descendante, quelque chose qui n'imprimerait pas, ou en tout cas des élèves qui joueraient leur rôle d'élève en disant ce que l'enseignant a envie d'entendre, l'enseignant qui est rassuré en se disant que tout va bien, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose, un élément particulier qui met tout à jour quelque part. Est-ce que vous auriez on est dans parlons pratique pour le coup, des outils pédagogiques, des méthodologies à proposer pour appuyer, pour transmettre ces fameuses valeurs de la République ?
Oui, absolument. Alors, je vais essayer d'en esquisser, mais déjà, je voudrais quand même commenter quelque peu ce que relate cette collègue et qui me paraît très important, parce que moi, j'ai envie de dire, il faut vraiment pas douter de l'apport que représente l'école, y compris sur cette question des valeurs. Hein. On a vu que l'apport principal porte sur les connaissances, sur la transmission des connaissances, d'une manière systématique, organisée, méthodique, etc. Donc, ce qui recouvre le domaine de l'enseignement et des enseignements. Mais à propos des valeurs, l'école a aussi un rôle vraiment primordial à jouer, et ce rôle est légitime. C'est vraiment le message que je voudrais souligner. Alors, le conflit de loyauté, il n'y a pas trop à le craindre, en quelque sorte. Alors, vous savez, il y a Philippe Pernoud, qui est un spécialiste de sciences de l'éducation, qui a bien décrit le métier d'élève. Hein. Il l'a même systématisé dans cette notion d'un métier d'élève. Et il dit bien que les élèves sont des go-between, comme il dit. Ils sont en tension entre la famille et l'école. Mais ce n'est pas pour cette raison que l'école devrait renoncer à effectuer les transmissions qui lui appartiennent. Parce que, encore une fois, la transmission des valeurs que l'école doit assurer, il s'agit de valeurs sociopolitiques ou de valeurs universelles. Donc ce ne sont pas les valeurs de la famille. Vous voyez, ce ne sont par définition pas les valeurs de la famille. Donc à partir de là, il est clair qu'effectivement, il peut y avoir un conflit qui se crée dans l'esprit de l'élève, mais c'est un conflit qui va le faire réfléchir, cet élève. Ah tiens, effectivement, voilà, je suis dans un autre milieu que celui de la famille, où je suis avec d'autres élèves avec lesquels je ne suis pas nécessairement ou spontanément ou a priori dans un lien d'affinité. Qui ne sont pas de ma famille, etc., que je ne connais pas, que je découvre. Donc, on est confronté à l'autre. Et précisément, le milieu scolaire évoque aussi d'autres types de valeurs qui ne sont pas celles de ma famille. Mais ça, c'est le début de ce qu'on appelle précisément l'éducation. Hein. S'interroger sur qui on est, ce à quoi on croit, et ne jamais oublier, à nouveau, dans l'optique de répondre à cette collègue et de dissiper les dilemmes qui pourraient l'entraver, cet élève qui va réfléchir, mais précisément, c'est un élève qui est en construction grâce à l'école. Donc, voilà l'apport que représente encore une fois le milieu scolaire, et il est légitime, cet apport. Alors, sur les méthodes pédagogiques, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, précisément, on le voit bien, pour que les élèves s'imprègnent, assimilent, intériorisent, comme disait la collègue tout à l'heure, à très juste titre. C'est vraiment le but, c'est l'intériorisation des valeurs et non pas l'apprentissage par cœur et la récitation des valeurs, comme ça a été le cas dans l'histoire de l'école, une histoire dont nous ne voulons plus, hein, que nous avons révoquée depuis longtemps. Alors, pour accomplir cette intériorisation, il faut précisément la coordination à la fois des savoirs, des pratiques et, j'ai presque envie de dire, de l'engagement des élèves. Donc, cette pédagogie de la transmission des valeurs, elle nous invite, ai-je envie de dire, il n'y a aucune obligation, c'est vraiment une invitation, une incitation. Elle nous invite, ce qui est très intéressant en termes de modèle pédagogique, à insérer ce qu'on appelle les pédagogies actives, c'est-à-dire les pédagogies qui vont mobiliser l'action, la participation, l'engagement, l'implication des élèves, mais au sein d'un cadre qui reste celui de ce que les spécialistes appellent la forme scolaire. Donc, les pédagogies actives plus la forme scolaire, et cela est, je crois, le socle d'une pédagogie efficace de la transmission des valeurs. Donc, en termes de méthode, je ne peux que militer pour tout ce qui va impliquer les élèves, les faire participer, parce que c'est aussi le gage pour eux. Et je reprendrai l'intériorisation en la déclinant sous forme d'une mémorisation. Il va y avoir une mémorisation. Ah oui, quand j'étais au collège, voilà, tel enseignant avec le CPE nous ont fait participer à un projet qui s'est concrétisé de cette manière. On sait qu'il y a une mémoire très forte de la scolarité, puisque la scolarité est longue hein, dans la vie des individus. Donc les événements marquants vont... contribuer à cette intériorisation des valeurs au-delà de l'école, parce que c'est aussi le but.
Nous poursuivons alors avec un troisième témoignage. C'est celui d'Anne Morin, qui est enseignante, mais qui là va nous parler en tant que chargée de mission éducation nationale au sein de la cité éducative Melun-Lemay-sur-Seine.
Alors, dans notre cité éducative de Seine-et-Marne, la question de la transmission des valeurs passe notamment par la déclinaison spécifique de la mesure de responsabilisation, qui est donc une mesure de l'éducation nationale, spécifique parce qu'elle se déploie avec un partenariat très fort avec la protection judiciaire de la jeunesse, puisque l'étude des cas des élèves est discutée avec un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors, pour donner un exemple très précis, hein, en début d'année, par exemple, une jeune élève de 4e a fait l'objet d'une mesure de responsabilisation puisqu'elle a giflé et insulté une camarade dans un couloir de l'établissement. Donc, le processus s'est engagé, réunion entre la PJJ et l'établissement. En parallèle, bien évidemment, la famille a été reçue avec l'élève par le principal qui a expliqué que ce qu'était la mesure de responsabilisation, c'est-à-dire une sanction avec une présence obligatoire aux ateliers qui seront proposés. Et en même temps, le début d'une réflexion engagée avec l'élève pour lui faire prendre conscience qu'au-delà de la sanction, on allait s'efforcer de travailler avec elle sur son parcours d'émancipation et de citoyenne. Voilà, donc elle, pour cette élève, ce qui a été décidé, c'est qu'elle suivrait un atelier de 2 heures avec la PJJ, hein, atelier au cours duquel elle réfléchirait, elle travaillerait sur la portée de son acte, y compris sur un plan pénal, hein, puisqu'il y a violence. Et puis, dans un deuxième temps, elle irait également au Centre d'information jeunesse de Melun pour suivre un atelier, cette fois, davantage de remobilisation qui va lui permettre de travailler sur son orientation, son projet, et de lui permettre de se projeter dans sa scolarité, puisqu'il s'est avéré que c'était vraiment ça également le problème. Alors, toute la question est sur l'après-mesure. Lorsque la mesure est terminée, que les 4 heures d'atelier ont été déroulées, comment accompagner cette jeune sur le reste de l'année? Quelle place laisse-t-on cette fois aux acteurs hein, qui interviennent dans le cadre de la mesure de responsabilisation? Quels sont les outils et la manière de travailler des équipes dans l'établissement hein, pour que cette mesure ne soit pas abandonnée, mais qu'il y ait une véritable continuité éducative jusqu'à la fin de l'année. Et c'est ça toute la question, c'est l'après.
On entend à nouveau hein, cette question de la pérennité des actions, de la façon de faire infuser ces valeurs au cours de la scolarité des élèves. Et puis, on entend aussi quelque chose autour de l'implication des acteurs à différentes échelles, dont vous avez un peu parlé en début d'émission. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de lui répondre ?
Alors, à travers ce cas précis et particulier, hein, voilà, on ne peut pas tirer non plus de généralité, mais alors moi j'aimerais rappeler que ce cas, cette situation qui nous est soumise, renvoie à une réforme très importante hein, qui est intervenue à l'école en 2000. Il y a eu un véritable tournant. Le ministre a voulu introduire les principes généraux du droit à l'école. Précisément parce que l'école était, aussi étonnant que ça puisse paraître, hein, avec le recul, une zone de non-droit où n'existait que le droit scolaire, la discipline scolaire, mais déconnecté des principes fondamentaux, hein, l'individualisation, la proportionnalité, etc., bon, ce que connaissent bien les juristes, ne s'appliquait pas à l'école. Donc ce cas de figure, il révèle aussi, hein, il témoigne de cette petite révolution culturelle, en tous les cas, au sein de l'école, qui a consisté à articuler le milieu scolaire avec notre édifice juridique. Et vous savez que notre édifice juridique, il a pour but et fondement la protection des individus, la préservation des libertés, enfin bref, on est en plein dans l'éducation à la citoyenneté concrète, ce que je veux dire, hein, c'est ce que je veux souligner aussi. Donc cet exemple est important parce qu'on peut le relier à notre problématique et à notre réflexion plus globale sur la transmission des valeurs. Moi, je perçois l'exemple qui nous a été donné sous cet angle, en fait, hein, finalement, comme si la collègue m'interrogeait sur finalement, qu'en est-il à travers ce cas particulier de la transmission des valeurs. Et je pense qu'il y a de véritables apprentissages, hein, qui sont faits pour cet élève, encore une fois, à travers et au-delà de son cas particulier, puisque il y a à la fois une sanction, mais des mesures éducatives. Et là, on retrouve un des fondements de l'école, qui est ce qu'on appelle l'éducabilité, le propre de l'école, à la différence d'autres milieux sociaux ou du milieu social environnant, c'est de ne jamais renoncer à l'éducabilité d'un élève. Hein, donc je pense que c'est extrêmement important d'avoir cela en tête. La sanction n'est pas l'alpha et l'oméga. On continue à éduquer l'élève à travers toute une série d'actions et un projet qui va être bâti au sujet de cet élève, encore une fois. Donc l'éducation prime, en l'occurrence, la sanction, et la sanction elle-même a une portée éducative. Hein. Donc voilà, il y a une spécificité du milieu scolaire qu'il importe de souligner en l'occurrence.
C'est peut-être là, on parle de valeurs et de principes, vous avez peut-être rappelé là la valeur et le principe essentiel, la fameuse éducabilité effectivement de tous les élèves. On aurait aimé vous poser encore beaucoup beaucoup de questions, mais on va se diriger gentiment vers la rubrique d'inspiration. Et en préparant cette émission, on vous a demandé si vous aviez une référence, une inspiration, quelque chose à partager autour de notre thématique des valeurs de la République, peut-être.
Absolument. Bah, écoutez, ce sera mon hommage personnel à Samuel Paty, mais également à tous les enseignants. Et encore une fois, j'emploie ce mot dans un sens très large, hein, incluant par exemple les conseillers principaux d'éducation, les équipes de direction, enfin bref, tous les personnels qui travaillent soit dans une école, soit dans un collège, dans un lycée, et sont nombreux ces personnels, hein, ils ont des rôles extrêmement différents, mais qui doivent être complémentaires, effectivement. Alors j'aimerais terminer vraiment sur la nécessité, l'urgence de réhabiliter le métier d'enseignant. Alors sous deux aspects, premier aspect, il est matériel, je pense qu'il est urgent de mieux les rémunérer. Ça me paraît crucial, y compris dans l'optique d'attirer les meilleurs étudiants vers ce métier, qui est un métier difficile, exigeant, mais très gratifiant également. Et sur un plan plus symbolique, ben je vous proposerais volontiers, voilà une mesure très audacieuse, hein, mais je vous proposerais de biffer le mot enseignant de notre vocabulaire, et je vous propose d'adopter celui d'enseigneur. Alors, enseignant et enseigneur ont la même racine. L'enseignant et l'enseigneur adressent tous deux des signes. Hein. Voilà la racine, l'étymologie de ces deux mots. Mais vous êtes d'accord, enseigneur a beaucoup plus de panache, on entend seigneur. Et je trouve qu'il y a une forme de souveraineté à réaffirmer à propos des enseignants. Et ils en ont bien besoin.
Merci Isabelle de Meckenem. On a entendu, je pense, dans cet épisode qu'il fallait aller au-delà de la division du travail éducatif et qu'on réussirait qu'en travaillant tous ensemble au sein de la communauté, quelles que soient les échelles, depuis la classe jusqu'à l'établissement et au-delà la société. Merci beaucoup en tout cas de votre présence et de votre engagement sur cette question.
En remerciant aussi Nadia Bécrard, Marion Picard et Anne Morin qui ont accepté de nous livrer leur témoignage pour cet épisode. Un grand merci Isabelle de Meckenem.
Je vous en prie.
Transmettre les valeurs de la République, un défi pour l'école aujourd'hui. Un épisode Parlons Pratique, préparé et animé par Hélène Audard
et Régis Forgione.
Enregistrement, montage et mixage,
Laurent Gaillard.
Coordination de production,
Luc Taramini et Hervé Thury.
Directrice de publication,
Marie-Caroline Missire.
Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
Une production Réseau Canopée 2021.
Extraclasse.